suggère que d'abord, comme on est tous rassemblés ici, mais qu'on ne se connaît pas forcément, on commence d'abord par chacun se présenter, donc notre prénom évidemment, mais aussi préciser si les gens ici font de la radio ou n'en font pas, si vous en faites, depuis combien de temps vous en faites, et puis si la radio est un média qui vous intéresse d'une manière générale à l'extérieur, si c'est un média que vous écoutez ou avec lequel vous n'êtes pas familier par exemple.
Bah moi je m'appelle Pauline, je suis donc de l'ENS et ça fait 4 ans que je suis à Transistor, donc la web radio de l'ENS, par intermittence parfois mais beaucoup cette année puisque je suis trésorière de l'association. Et pour moi la radio c'est clairement quelque chose qui compte, c'est-à-dire que depuis toujours j'écoute très régulièrement la radio dans quelques cadres que ce soit, et notamment pour la musique, les informations et certaines émissions. Et ça va vraiment de diverses stations France Culture, RTL, en passant par Virgin, ou des radios étrangères aussi, beaucoup. Donc voilà. Et j'écoute aussi, et on abordera le sujet, la web radio. Donc voilà. Et justement, pour les radios étrangères, c'est quelque chose d'intéressant. Donc je vais laisser la parole à Mathilde.
Merci Pauline. Alors moi c'est Mathilde, je suis à Transistor depuis l'année dernière et cette année je me suis impliquée dans le bureau et voilà, je suis à la fois secrétaire et j'interviens sur beaucoup d'émissions et voilà, pour mon rapport à la radio, c'est vrai que j'ai commencé à l'écouter, alors je l'écoutais pas du tout, première année d'études, plus de télé et je me suis mise à écouter la radio et j'ai beaucoup apprécié ça. Et depuis l'année dernière que je suis à Transistor, peut-être plus les web radios que je ne connaissais pas du tout.
Bonsoir, donc Maxime, coprésident de l'association Esprit Critique, qui a pour but un petit peu la promotion justement de l'expression jeune, donc via des débats ou des ateliers de sensibilisation et d'utilisation des outils médias. Voilà, pour ce qui est l'utilisation radio, elle est un petit peu variée également, pas mal de radios sur le web radio, sinon également un petit peu France Info, France Inter, les matins aussi occasionnellement. Également RFI ou quelques autres radios occasionnelles locales. Voilà.
Bonsoir à tous. Donc moi c'est Lucas. Donc je fais partie d'une web radio qu'on vient de créer récemment, donc RL2. Donc avec mon président ici à mes côtés. Et donc voilà, donc on est en phase de lancement. On espère faire des bonnes émissions. Voilà, je pense que
c'est un objectif louable.
Sinon, en ce qui me concerne, je suis un peu, comme dirait Arthur, pas un enfant de la télé, mais un enfant de la radio. Donc j'écoute beaucoup, et c'est vrai que c'est assez important la radio, puisqu'on a beaucoup de temps de déplacement à Lyon, enfin pas énormément, mais on en a quand même pas mal, du coup on peut écouter la radio, que ça soit le matin, par exemple France Info, ou... Ouais, exactement, on a le rabron, et ou Europe 1 que j'écoute très souvent.
Alors bonsoir à tous, moi je m'appelle Loïc, alors comme l'a dit Lucas, on fait partie de la web radio RL2 Radio, donc qui est la première web radio de l'université Lyon 2. Donc on est arrivé en fait au mois de janvier dernier, en janvier 2015. Et donc voilà, donc l'idée c'est vraiment d'être un média citoyen à Lyon 2, un média étudiant qui accompagne les étudiants, donc au même titre que les différents journaux qu'on peut retrouver au sein de cette université. Donc pour moi la radio c'est vraiment un média fort, un média important, parce que je pense que par la voix, par la radio, on ne peut pas mentir. Et lorsque j'écoute, alors moi, c'est plutôt, je suis très européen. Et c'est vrai qu'il y a une sorte de rigueur d'information, une rigueur de ton. Et il y a une parole qui est libre. Et c'est ce que j'aime en radio parce que voilà, on donne la parole aux gens, aux citoyens. Et c'est ce qui compte.
Moi, c'est Alexandre. Je suis à Manque-Pas-d'Air. La radio, c'est quelque chose que... Enfin, j'écoute la radio beaucoup pour la musique. Un peu pour certaines chroniques humoristiques, mais pas spécialement, c'est pas quelque chose avec lequel je suis très familiarisé.
Bonsoir à tous, pardon, je m'appelle Arthur.
Bonsoir je suis... Arthur.
Es-tu un enfant de la radio?
Donc je suis en L1 droit Sciences Po, je fais partie comme Alexandre de Manque-Pas-d'Air. Et j'écoute la radio finalement dans un cadre assez banal, le matin pour me réveiller, France Inter.
Bonsoir à tous, Juliane. Je suis étudiant en droit, L3 droit à l'Université Lyon 2, aussi membre de Manque-Pas-d'Air. Finalement, oui, la radio pour moi, c'est un média qui me permet de rester, un des médias qui me permet de rester en lien avec le monde extérieur, qui me permet de connaître surtout des nouveaux horizons grâce au web radio. Et
bonsoir, moi c'est Gisela d'Esprit Critique, je suis également coprésidente avec Maxime. Sur la radio, et bah, j'écoute la radio de temps en temps, mais pas tout le temps. Enfin, j'ai des périodes où j'écoute beaucoup et d'autres périodes où j'écoute pas du tout. Voilà.
Alors pour ma part, je m'appelle Thomas, je suis à Transistor depuis 4 ans, animateur, chroniqueur. À Transistor, on a cette particularité qu'on peut créer nos émissions de toutes pièces et les suivre du début à la fin. Avoir l'idée, le projet, recruter des amis pour les faire. Préparer l'émission, récolter des informations, recruter aussi des invités. On enregistre. On a la chance à l'ENS d'avoir à la fois un studio pro grâce au service ENS Média et on a un studio qui peut ressembler à celui qu'on vous présente ce soir dans le cadre de cette soirée organisée par Esprit Critique. Et puis après vient le temps du montage parce qu'on a aussi l'aspect technique qui est très important en radio et qu'on met en avant ce soir en vous montrant aussi comment dans les coulisses on prépare une émission, on l'enregistre. Et pour cela, après les émissions, quand elles sont montées, il faut en faire la publicité également sur notre site, sur nos réseaux sociaux. Et pour cela, on a besoin de quelqu'un d'important dans notre radio. C'est celui qui est capable de gérer la technique, mais aussi de gérer l'Internet. Et il est là, par exemple, c'est Nicolas.
Alors bonsoir, moi c'est Nicolas. Ça me dérange beaucoup de parler dans un micro avec le casque, parce que voilà, donc j'enlève mon casque. Et je m'occupe de la technique de temps en temps. Cette année, c'est pas moi qui suis responsable de la technique. Mon vrai rôle dans l'association, c'est l'informatique, donc le site internet sur lequel on s'appuie énormément, évidemment, puisqu'on est une web radio, c'est notre centre névralgique. Et sinon, vu que je suis le seul scientifique de notre web radio, j'anime une émission de science et une émission de littérature parce qu'il faut varier les plaisirs de temps en temps.
Et enfin, je m'appelle Marie, je suis présidente de Transistor, également animatrice, chroniqueuse dans d'autres émissions, donc de l'histoire, une émission de divertissement, une émission de critique de spectacle également. Cette année, je suis présidente d'une radio qui a fêté son cinquième anniversaire avec tous les gens qui sont ici.
Le 2 décembre, exactement.
Exactement. En tout cas, je pense qu'on pourrait déjà démarrer la discussion autour de ce que c'est que cette forme radio. C'est une forme qui est quand même assez répandue finalement dans les facultés et les écoles, qui n'existe pas systématiquement. On a peut-être plus souvent des journaux papier, voire des journaux web plus récemment. Je ne sais pas si vous considérez que c'est un média important pour un campus. Est-ce que c'est important d'avoir une radio? Est-ce que c'est un besoin de la part des étudiants qu'on retrouve?
Moi, ce que je trouverais intéressant, c'est peut-être de faire participer justement les personnes de Manque pas d'air, parce que vous êtes un autre type de média. Donc peut-être la première question, c'est pourquoi plutôt le média écrit et papier que le média radio, par exemple? Vous le vivez comme simplement un choix particulier, singulier, ou vous pensez la complémentarité peut-être aussi des médias?
Alors concrètement, je pense que le choix du journal papier s'est effectué d'abord parce que c'était le plus simple à mettre en place, à mettre en œuvre. Je pense, après j'y connais pas grand chose, mais je pense que monter une web radio, c'est quelque chose qui demande des moyens, qui demande du temps, qui demande de l'implication, plus que pour monter un journal papier.
Je pense que quand tu dis que ça demande une certaine implication, par exemple une implication financière, enfin pour démarrer, il faut obligatoirement avoir du matériel. En même temps, pour démarrer un journal papier, il faut avoir tout simplement de quoi. Alors, évidemment, je suppose que tout le monde a un ordinateur ou peut avoir accès à un ordinateur pour taper des articles. Comment vous faites pour les imprimer et comment ça se passe niveau financier de ce point de vue-là et comment ça se passe exactement?
Il y a notre rédactrice en chef qui n'est pas présente avec nous, qui s'en charge justement de la mise en page du journal. Et en ce qui concerne l'impression du journal, c'est le service de réprographie de la faculté qui nous prête ce service-là avec des tarifs qui sont vraiment très avantageuses et qui nous permettent justement de tirer entre 250 et 300 exemplaires de chaque numéro.
Alors, puisqu'on a justement une radio qui s'est créée tout récemment, qui a lancé l'idée et comment ça s'est fait?
Alors en fait, moi j'ai eu l'idée de monter cette web radio parce que Il n'y en avait pas à Lyon 2 avant. Et c'est vrai qu'au-delà de ça, donc on parlait tout à l'heure de nos expériences radio. Moi aussi, la radio, c'est quelque chose que j'écoute tous les jours. Et pour vous dire, c'est une petite anecdote, mais c'est que je m'endors avec la radio le soir. Partout où je vais, voilà, j'ai toujours la radio qui est près de moi. Et j'ai donc, en fait, l'été dernier, j'ai fait des stages un petit peu dans quelques rédactions, Radio Scoop et Europe 1 à Paris. Ce qui fait que quand je suis revenu de ces stages-là, je me suis dit, voilà, il faudrait qu'avec mes amis, voilà, on essaie de monter une sorte de web radio d'humeur, une émission de bande, et c'est ce qu'on fait avec On va s'informer, donc que j'anime, et donc voilà. Et en plus de ça, on peut retrouver sur notre site des articles. Alors on a décidé de faire ça vraiment virtuellement sur le net, parce que voilà, on est tous avec nos portables aujourd'hui à l'heure des smartphones, etc., et on trouvait que c'était beaucoup plus intéressant de pouvoir retrouver sur un site des articles écrits par des étudiants comme Lucas qui est présent ici à mes côtés. Et voilà, donc on a vraiment cette approche de proximité maintenant avec à l'heure du net, je pense.
Et alors, pour revenir sur cette question du lien entre fac et grandes écoles, on peut dire aussi qu'il existe des structures pour encadrer justement cette demande, on le sent, qui peut émerger de la part des étudiants. Il y a la CRGE, la Confédération des radios des grandes écoles d'une part, et puis tout le système des radios campus qui sont là aussi pour encadrer ces volontés, les institutionnaliser, on peut dire.
Ouais, même si je suis pas sûre, enfin, c'est pas ça quand même qui pousse à la création d'une radio, mais...
C'est là pour soutenir des envies. Enfin, je pense qu'à partir du moment où il y a l'envie de créer un média, et plus particulièrement le média radio, effectivement, a priori, un journal, qu'il soit quotidien, enfin pas quotidien, mais on va dire hebdomadaire ou mensuel, ça paraît plus faisable avec une bonne équipe, un service repro, qu'une web radio où il faut effectivement des moyens, et donc dans ce cas-là, ça justifie d'avoir recours à des organismes un peu qui structurent en fait l'envie et les ambitions. Moi, je me posais la question justement de comment les uns et les autres à cette table ressentent peut-être le caractère un peu spécifique de l'expression orale, cette importance de la voix, du sonore, peut-être de la musique. On évoquait, on n'écoute pas seulement des émissions, mais de la musique aussi. Donc voilà, ça, par rapport justement à l'expression écrite qui est dans le journal. Quel est votre rapport finalement à ça, à la voix, à la...
Moi, je trouve ça intéressant de le mettre en lien avec le fait qu'on est aussi des étudiants et une radio étudiante. Parce que justement, il me semble qu'on a un rapport beaucoup plus... on a tendance à avoir une expression qui est plus facilement écrite. En tout cas, moi, c'est vraiment quelque chose que j'ai l'impression qu'à l'ENS, en tout cas, et je suis sûre que c'est
dans
pareil.
Les études,
On est vraiment beaucoup plus poussé vers l'expression écrite. Et je trouve assez intéressant parce que justement, j'ai l'impression qu'on découvre vraiment quelque chose qui... On arrive vraiment à une forme d'expression qui, dans laquelle on s'émancipe vraiment de cette forme scolaire. D'ailleurs, je ne sais pas ce que vous en pensez, vous, justement, en tant que rédacteur écrit. Si vous ressentez que peut-être vous...
Oui, c'est vrai que si je peux me permettre, je pense que tu dis justement que la forme écrite, elle ramène un petit peu au scolaire, mais je pense que là-dessus, il manque pas d'air pour confirmer. La forme écrite, quand même, dans un journal, elle permet aussi vraiment une certaine, parfois, liberté dans l'écriture aussi, qu'il n'y a pas forcément dans certaines formes scolaires. Et aussi, l'écriture de presse... elle impose aussi certains codes qui sont aussi des codes qui ne sont pas du tout ceux des codes académiques quand on écrit sur une copie pour une revue académique ou toute autre chose aussi. Donc c'est aussi, je pense, une réinvention d'une autre expression aussi là-dessus qui vient un petit peu justement aussi pondérer la chose. Maintenant, c'est vrai que la radio a vraiment cette spécificité quand même, et notamment, enfin, quelque chose qui me fait à chaque fois un petit peu tilter, c'est vrai, quand on demande aux gens comment est-ce qu'ils écoutent la radio, beaucoup de gens nous disent « bah moi, le matin, quand je me réveille, je mets la radio ». Finalement, la radio, ça réveille. Et ça, je pense que c'est aussi...
Ça endort aussi. Hein, mais...
ça peut endormir, mais quand on y pense, bah oui, ça réveille parce qu'il y a cette voix, il y a cette activité, il y a cette liberté d'expression là-dessus, vraiment, dans la forme qui est assez, assez intéressante.
Alors, on n'arrêtait pas de parler de vous, on vous donne la parole. Est-ce que vous avez l'impression d'être scolaire quand vous rédigez votre journal ?
C'est pas ce que je disais.
Déformation de propos, bah bravo.
être scolaire, moi je pense pas du tout justement, c'est... Non justement, donc, non,
vous
comme
êtes obligé
Maxime...
de vous émanciper de cette tentation d'être scolaire la première fois.
Et de même que quand on fait de la radio, on parle pas comme quand on passe un oral de 20
minutes. Non, c'est intéressant sur la radio, j'ai oublié de dire qu'on écrit souvent nos textes, nous à Transistor, et c'est très dur d'arriver à justement à ne pas le lire comme un écolier, et qu'en fait c'est la même démarche, j'imagine.
Après je pense qu'il y a quand même un niveau, enfin dans l'écriture il y a quelque chose qui est assez scolaire, parce que c'est toujours une structure qui est toujours la même, introduction, contenu, conclusion, c'est toujours la même chose, mais après il y a une certaine... liberté dans la manière d'écrire et dans la façon d'écrire. Je sais que par exemple sur les 3 articles que j'ai pu faire pour la Gazette, il y en a 2, j'ai fait la première personne parce que je parle de mes expériences surtout. Et voilà, c'est quelque chose qui est plus agréable, je trouve, à faire. Après, pour la radio, je trouve ça vraiment très agréable aussi de pouvoir entendre les gens, parce que je pense qu'on ressent pas la même chose dans l'écrit et avec la voix. On ressent plus, je pense, avec la voix. Et je trouve que c'est vraiment quelque chose qui est important aussi.
Moi, personnellement, j'ai surtout le sentiment que l'opposition entre... enfin, l'opposition ou la différence, on va dire, entre radio et puis écrit, elle ne se joue pas au niveau de l'oral ou de l'écrit, justement, mais au niveau de la différence entre comment sonore et visuel. Finalement, quand on lit, on est obligé... Non seulement, c'est de l'écrit, on lit, mais on est obligé de s'arrêter devant un papier, d'y rester un peu scotché et de... Voilà.
Oui, parfois, il y a un rapport très passif à la radio. On peut l'écouter pendant qu'on fait autre chose.
Voilà, pendant qu'on peut faire autre chose, mais en même temps, si on veut vraiment écouter, être concentré, comprendre ce qui se dit, on est obligé de rester fixé, mais sans aucun visuel pour soutenir en fait l'attention.
Ce qui pose la question, Pauline, de la web radio. Parce que dans la web radio, on a à la fois effectivement ce média de la radio, mais qui passe par un écran. Alors, on peut décider de laisser son ordinateur, de s'en affranchir et de considérer l'ordinateur comme un poste de radio, d'appuyer sur le player quand c'est un podcast comme sur Transistor, ou de lancer la playlist quand c'est une boucle en direct sur d'autres radios, et de vaquer à ses occupations et de considérer la web radio comme la radio, c'est-à-dire comme un média d'accompagnement. En revanche, parfois, quand on est par exemple à la bibliothèque, qu'on travaille avec son ordinateur et qu'on écoute en même temps, le lien il est moins évident parce qu'on a l'écran en face et que c'est difficile de le dissocier. D'où le fait que beaucoup de radios, on parlait d'Europe 1 tout à l'heure, et les web radios qui sont vraiment des web radios au départ réfléchissent à cette médiation parce qu'il y a l'écran et qu'on ne peut pas forcément l'oublier. Pour Europe 1, c'est par exemple l'intégration des réseaux sociaux sur le player de diffusion en direct, avec en plus l'émergence de la caméra pour filmer l'intérieur du studio, donner le côté coulisses, donner le côté télé. Mais donc il y a bien cette question là qui est compliquée par le format qu'est la web radio.
Oui, tout à fait, mais pour moi d'ailleurs c'est une aberration que la radio filmée, mais ça c'est mon avis. Non, ce n'est pas une aberration.
Merci,
mais ce que je veux dire c'est que c'est un autre genre et que enfin voilà, moi je trouve qu'on perd quelque chose en essayant à tout prix de réintégrer le visuel, que ce soit de X ou X manière dedans, enfin que ce soit...
Mais tu comprends que c'est aussi une manière pour les radios institutionnelles qui voient bien qu'il y a une envie de la part des web radios, parce que le web maintenant, on est presque tous autour de la table, ça serait un débat, mais qui ne va pas sur Internet, rien que regarder ses mails, il y a un lien avec Internet qui est aujourd'hui pour générationnel, ce qui n'était pas le cas avant de nos parents qui ont appris Internet. Nous, on est presque nés avec, on sait notre vie. Donc, ils vont investir ça, et le visuel par la caméra, c'est un moyen de justement gommer cette différence entre audio-visuel créé par l'écran.
Je pense que c'est surtout aller dans le sens du multimédia, puisque à la base on avait déjà simplement les podcasts ou même les lives à écouter, avec en plus plein d'écrits autour, que ce soit via les chats, que ce soit les articles, etc. En fait, je pense que Internet c'est simplement le multimédia par excellence, c'est-à-dire non seulement le visuel, le sonore, mais aussi l'écrit. On dit toujours la mort de l'écrit, mais enfin je pense qu'au contraire ça.
Et alors justement, pour les web radios, une manière aussi de gommer cet écran, ou en tout cas de le prendre en compte, c'est de proposer des contenus écrits à côté, d'augmenter ce qu'on voit, ce qu'on entend, surtout par des liens vers des dossiers qui vont approfondir le sujet qu'on évoque, ou de permettre un approfondissement quand on a une chronique de théâtre qu'on écoute, de la lire ensuite et dans une version plus longue. longue. Donc c'est aussi réfléchir à ça, réfléchir à l'augmentation de l'audio par l'écrit.
Enfin, sur cette intégration-là, vidéo-radio, en fait, je penserais même qu'il s'agirait en fait d'ouvrir ce média qui auparavant reste un peu fermé du fait que l'on n'entend que par un boîtier.
Ah, parce qu'on a une web radio aussi, on n'est pas les seuls. La vie.
Moi, je pense que la radio, c'est plutôt un cadre d'évolution qui est la radio qui soit filmée. Après, il y a certaines personnes, je pense en particulier aux hommes politiques, qui n'apprécient pas forcément parce qu'ils ont leurs habitudes et qu'ils se rendent compte que là maintenant la radio c'est filmé.
Oui, c'est ça. Et ça du pose coup, des problèmes. Il faut faire attention à tout ce qu'on fait. Et du coup, on peut pas tout à fait faire n'importe
quoi. Voilà, c'est ça. Et puis c'est difficile. Puis après, il y avait. Moi, je suis plus. Après, c'est une évolution comme une autre. C'est une évolution qui est là de fait. Après, c'est vrai qu'il y avait tout un imaginaire, par exemple, des personnages qu'on écoutait à la radio, qu'on avait l'impression qu'ils étaient tel ou tel, sans vraiment les connaître, et on imaginait une autre personne. Et maintenant qu'on
les imagine très beaux parce qu'ils ont une belle voix, et après on les découvre, et là c'est voilà, terrible.
Et puis on voit qu'ils ont des physiques de radio, donc ça pose le problème après.
Avons-nous des physiques de radio? C'est une vraie question.
Mais c'est une vraie question pour le recrutement, surtout des journalistes à terme. Non, mais enfin, je veux dire, on se pose la question énormément pour est-ce que les chanteurs sont des bons chanteurs et est-ce qu'on fait pas simplement attention à leur. Voilà.
Et justement, télé, si donc, ces questions vous intéressent de la construction de l'identité par la radio, et bien le 24 avril, le vendredi 24 avril.
C'est le moment pub. Transistor.
Vous faites saturer si vous applaudissez, dis donc.
Transistor organise
la journée de la radio, un événement, c'est sa 4e édition, la journée de la radio. Cette année, le thème, c'est le corps à la radio. La journée de la radio, c'est une journée de 7h à 18h. On est en live dans le Théâtre Cantor à l'ENS de Lyon. Il y a des émissions en direct, il y a des conférences, deux conférences, dont une, en plus d'une exposition, dont une sur justement ce thème de la voix, de la construction de l'identité par la voix et de cette différence entre voix masculine, voix féminine. La question du genre, pourquoi, et c'est un constat, il n'y a aucune femme qui dirige une matinale. Pourquoi les femmes sont cantonnées à certains rôles, à certaines tranches? Pourquoi certains types de voix, pas juste féminin, masculin? Et toutes ces questions et bien d'autres, le 24 avril, en Théâtre Cantor.
Et pour le côté racoleur, on a une autre conférence, elle est sur le sexe à la radio. Voilà.
Alors, c'est vrai, comme c'est ce qu'on disait un petit peu en suspens, la radio, c'est un média d'habitude. Et je pense qu'aujourd'hui, en fait, à l'heure d'Internet, toujours l'idée, c'est vraiment de rapprocher les jeunes, je trouve. C'est Jean-Pierre Elkabbach, le premier, qui a initié, en fait, la web radio télé, si j'ai envie de dire. Et en fait, si vous voulez, l'idée principale, et j'ai lu une interview de lui à propos de ça, c'était vraiment d'intégrer les jeunes, de les rapprocher au mieux de l'information et de les entraîner vers des radios qui n'auraient pas forcément écouté, en l'occurrence Europe 1, celle dans laquelle il officie aujourd'hui et puis depuis longtemps. Donc voilà, c'est de les intégrer, comme c'est une radio qui est un petit peu showbiz, j'ai envie de dire, puisqu'on a des grandes voix, mais aussi des personnalités qui maintenant sont à la radio. C'est voilà, venez sur Internet, regardez, on est sur les réseaux sociaux, et ben on est là, venez vers nous. Et c'est un petit peu ça aussi l'objectif aujourd'hui de la radio filmée. Après, c'est vrai qu'on perd du côté un petit peu mystère, c'est-à-dire qu'avant on avait des belles voix, Jacques Chancel qui est décédé il y a très peu de temps, mais c'était des personnes qu'on écoutait et on s'imaginait, on avait l'impression d'être avec lui dans le studio. Aujourd'hui, maintenant, on peut voir les personnes dans les studios et ça perd un petit peu de son charme, mais la radio reste là et au final, elle évolue et c'est ce qui fait son charme.
On retiendra qu'on peut donc associer dans une même phrase jeune et Jean-Pierre Elkabbach. Et sinon, on enregistre des voix qui nous ont fait rêver, qui nous ont fait fantasmer. Moi, personnellement, c'est celle de Laure Adler. Mais je pense qu'on a tous, effectivement, cette création de fantasme aussi. Parce que la voix a un côté sensuel quand elle passe par la radio. La radio, si c'est un média d'habitude, c'est surtout un média intime. Il y a un rapport qui se crée directement. On a l'impression que la voix qui parle, que ça soit dans le poste ou dans notre ordinateur, eh bien, elle s'adresse directement à nous. Alors que bon, quand on voit à la télé, on s'imagine bien que c'est pas pour nous que c'est fait. Mais il y a ce côté intime, lié aussi au moment où on écoute la radio. On parlait de l'endormissement, on parlait du réveil. Voilà, un côté intime.
Oui, lié à la temporalité, mais lié aussi, je le répète, à l'absence de regard.
Mais répète.
À l'absence de regard, parce que on a l'impression, vu qu'on n'a qu'une voix, c'est...
Oui, parce que même dans la radio filmée, c'est pas du tout filmé comme à la télévision. On a l'impression presque d'observer les gens. Par exemple, la caméra est... justement brise ce rapport qu'on a avec la télévision au regard. On n'a pas une personne qui nous regarde directement. Souvent, les caméras sont un peu en biais. On a l'impression presque d'être un observateur.
C'est un peu voyeur, en fait. Voilà, c'est un peu voyeuriste.
Oui, mais de s'être un peu glissé dans le studio discrètement. Et c'est vraiment différent. Moi, j'ai tendance... Peut-être à pas autant... moi, j'ai pas de soucis particuliers avec la radio filmée, parce que je suis d'accord qu'on perd un peu en charme, mais on gagne aussi énormément en visibilité, parce que d'un point de vue très prosaïque, qu'est-ce que c'est la radio filmée ? C'est pouvoir intégrer des extraits de ce qui s'est passé à la radio dans les journaux télévisés.
Et oui, le 20h. Oui.
Parce que c'est pour ça qu'on s'est mis tout simplement à la radio filmée, c'est parce que quand un politique disait quelque chose à la radio, on était obligé de
mettre sa photo,
sa photo,
exemple, ouais.
On était un peu bloqué, donc c'était pour l'intégrer.
Alors, depuis tout à l'heure, on parle pas mal des émissions qu'on aime bien, des animateurs, des voix qu'on aime bien. Si on se pose un peu la question de comment est-ce qu'on crée une radio, comment est-ce qu'on crée une web radio, déjà, à la base, il faut avoir une idée pour commencer. Est-ce qu'on a plutôt tendance à avoir des espèces de modèles, des émissions qu'on aime bien et qu'on essaye de recréer ? Est-ce qu'on essaye plutôt de faire quelque chose de neuf dans la mesure où on sait qu'on n'est pas un grand média national ? Et où on sait qu'on a un public un peu plus ciblé, question dont on pourra reparler après. Travis, qu'est-ce qu'on a tendance à privilégier quand on crée une émission au tout début, sachant qu'on est plutôt libre a priori et qu'on n'a pas de contraintes, on n'a pas de contraintes publicitaires, on n'a pas un chef au-dessus de nous qui va nous dire que tel projet d'émission peut être refusé ou tel autre accepté. Comment est-ce qu'on fait et qu'est-ce qu'on crée ?
Je pense que c'est un peu un mélange des deux, c'est-à-dire qu'on a des modèles qui sont un peu toujours là, on se dit, bon, on aimerait bien tendre vers ça, parce qu'on trouve que tel ou tel point est intéressant, telle ou telle rubrique peut nous intéresser à mettre en place, mais aussi, vu qu'on n'a pas, comme tu viens de souligner, on n'a pas de quelqu'un au-dessus de nous, on est assez libre, et donc du coup, on va pouvoir mettre en place des choses, voilà, des choses, bon, dans le cadre de notre émission, on va s'informer, on a des choses qui sont assez ludiques, on a des petits jeux, on a des challenges chroniqueurs, des choses, voilà, où il y a de l'interaction entre les...
Et comme on le disait tout à l'heure, c'est vrai qu'avec la radio, on ment pas. Donc on a une base, c'est souvent des émissions qui sont déjà là. Mais si vous mentez, si vous copiez, si vous plagiez, les gens ne vont pas vous écouter plus longtemps. Donc il faut, je pense, apporter sa touche personnelle, l'intérêt et les personnalités de chacun, de ceux qui font une radio, donc que ce soit les chroniqueurs, que ce soit l'animateur, pour essayer d'innover au mieux et de créer. Parce que la radio, avant tout, c'est de la création, c'est l'apport de nouvelles choses, parce que on a une palette de radio, de web radio. Et l'idée, c'est de se démarquer.
Alors, puisqu'on peut faire de l'intermédiation ce soir, la question pour la radio, la web radio se pose aussi pour un journal. Alors, quand vous avez créé votre journal, quel modèle aviez-vous en tête ? Et puisqu'on n'arrête pas de dire la radio, oui, on ment pas à la radio. Est-ce qu'on triche et est-ce qu'on peut mentir aussi dans un journal ?
Alors, pour répondre à la première question de savoir quel modèle on avait quand on a créé le journal donc a été créé, enfin la Gazette a été créée en 2004. 2004-2005.
En fait, c'est surtout la rédactrice en chef, Lily, qui avait beaucoup travaillé sur l'idée et le projet de la Gazette. Elle l'a remodelé avec une image plus moderne et donc l'idée était déjà là et il a fallu juste, voilà. On peut dire que Lily a mis sa touche personnelle aussi.
Alors, on parle de rédacteur en chef, rédactrice en chef. On peut parler aussi on peut utiliser ces termes-là aussi à la radio. Est-ce que vous pensez qu'il y a une importance alors dans les médias que chacun représente ici, est-ce qu'il y a vraiment des choix de rédaction qui sont faits ou est-ce que chacun peut faire un peu son émission ou écrire sa rubrique un peu comme il le veut ? Est-ce qu'il y a des tendances, quelque chose d'imposé par un rédacteur ou un rédacteur, pas forcément imposé, mais des idées directrices données ? Ou est-ce que chacun va plutôt dans le sens d'une liberté dans la mesure où on est des médias étudiants ?
Eh bien écoute, justement, dans ce qui concerne la Gazette, c'est un média assez libre qui est créé justement par des étudiants et pour des étudiants. C'est surtout un média où vous pouvez vous exprimer. C'est notamment l'exemple de la page de Libre Expression.
Donc à chaque numéro de Gazette, on pose une question qui fait un petit peu polémique, justement pour...
Un exemple de question polémique, justement.
Alors, pour la prochaine Gazette, c'est est-ce que la tactique du président, de l'ancien président Nicolas Sarkozy, d'abroger la loi Taubira, est-elle une bonne tactique, finalement ?
Après, si vous voulez diviser encore plus, vous pouvez aller plus loin et poser la question du mariage entre femmes prêtes.
Merci Nicolas, c'est intéressant d'intervenir pour ça.
Et oui, je lui donne mon micro exprès.
Tu vois. Oui, je vois. Alors, pour la question de la liberté, tout à l'heure, on entendait beaucoup à la radio, on ne ment pas, on ne peut pas tricher. Est-ce qu'on est libre à la radio ? Est-ce que vous avez un rédacteur en chef à RL2 ?
Alors, dans le cas de RL2, c'est un petit peu le cas des médias qui sont ici représentés. Tout le monde est libre de venir s'exprimer, de venir créer, de venir apporter de nouvelles choses. Alors, c'est vrai que oui, on ne ment pas à la radio, mais ce que je veux dire, c'est que dans le cadre de RL2, on n'a pas forcément de rédacteur en chef. Alors, on n'a pas de hiérarchie, si vous voulez. On a des personnes qui s'occupent de différents pôles, le pôle com, le pôle radio. Mais c'est vrai que la clé de voûte, c'est l'expression. Après, au-delà de ça, on essaie quand même de respecter une certaine déontologie. C'est-à-dire que nous, on essaye de ne pas trop, bien qu'on ait des débats politiques, notamment dans l'émission On va s'informer, en parlant de faits médias, donc on peut voir de la semaine, etc. Mais ce qu'on veut, c'est on veut pas être un média partisan. Se dire, bon, bah alors voilà, on est pro-socialiste, par exemple, pro-UMP, etc. Non, on va parler de ces faits médias. Alors, on essaye d'avoir une certaine objectivité, ce qui est toujours difficile, surtout quand on a des chroniqueurs et qu'on a différents profils, différentes filières, différentes personnalités autour de la table, mais voilà.
Mais c'est aussi, je pense, une spécificité de la forme un peu associative. Moi, je pense qu'à Transistor, on peut dire qu'on n'a pas vraiment de ligne éditoriale et c'est un choix aussi. C'est-à-dire que n'importe qui paye sa cotisation, parce qu'on est une association, loi 1901, peut venir et créer son émission. Alors après, évidemment, la diffusion différée permet d'écouter entre nous l'émission, de dire si oui ou non elle a sa place sur Transistor, c'est-à-dire évidemment qu'il n'y ait pas des choses dérangeantes d'un point de vue... Enfin, c'est-à-dire des choses qui seraient dérangeantes d'un point de vue politique,
oui, ou pénal, légal. Exemple.
Mais après, il y a aussi des...
Je suis responsable pénalement pour l'association. Donc
voilà,
oui.
Évidemment, des choses qui tombent pas sous le coup de la loi, mais il y a cette grande liberté et je pense que ça permet de nous ouvrir à un public plus large.
Mais justement, concernant plus spécifiquement la web radio et notamment les web radios étudiantes et associatives où on est un peu entre nous, parce qu'on disait tu disais tout à l'heure, la web radio, elle s'est créée aussi dans l'optique de s'adresser à un public plus jeune, de suivre l'évolution, j'ai envie de dire, en termes d'appropriation de la culture par les jeunes. Mais est-ce que d'abord c'est si vrai? Est-ce que la web radio n'est pas du tout utilisée par nos aînés? Est-ce qu'elle n'a aucune vocation à l'être? Est-ce que eux-mêmes ne peuvent pas faire de la web radio? Parce que là aussi on est très dans la production, l'expression, mais ça en dit long aussi sur notre capacité à écouter. Pour nous exprimer, est-on encore capable pour autant d'écouter que ce soit des web radios ou autre chose?
Pour rebondir d'ailleurs, il ne faut pas non plus oublier les liens qu'il y a par exemple entre les web radios aujourd'hui et les radios libres d'hier,
oui,
les radios de nos
sûr.
Aînés, et ne pas gommer, occulter
la filiation et l'héritage.
Voilà. Écouter et
il y a
aussi
une continuité,
se rappeler. Finalement.
Bien sûr, écouter et se rappeler.
C'est une vraie question, la question du public, dans la mesure où on est un média étudiant. Est-ce que notre public est exclusivement jeune? Est-ce qu'il est exclusivement étudiant?
Est-ce qu'il a vocation à l'être?
Voilà, à qui est-ce qu'on s'adresse finalement? C'est intéressant aussi d'avoir le point de vue du journal écrit. Je sais pas, justement, est-ce que vous pouvez nous préciser comment est diffusé votre journal? Où est-ce qu'on peut le trouver?
Eh bien, justement, chaque mois, on essaye de, dans la mesure du possible, de sortir un numéro. Et à partir de là, on essaye de proposer à la communauté étudiante ou à la communauté, à nos amis, à notre entourage, même à nos professeurs. D'ailleurs, notre doyen de la faculté de droit, Guillaume Protière, que je crois, s'il m'écoute, j'ai l'occasion de saluer.
Nous sommes pas en direct. Hein.
Effectivement. Peut-être s'il écoute le podcast après. Bon, c'est jamais. On essaye aussi de proposer d'autres thèmes, par exemple des thèmes plus culturels. On essaye aussi de diversifier au niveau, c'est-à-dire on propose une page de cuisine, par exemple.
Alors pour évoquer la question du public que l'on touche, est-ce que finalement quand on est une web radio, peut-être dans une grande école, donc à majorité écoutée par des étudiants, si on écoute ce que vient de nous dire la Gazette, est-ce que la solution ce n'est pas justement de diversifier pour ouvrir le plus possible? On peut poser la question à RL2.
C'est vrai que nous on est une toute nouvelle web radio, c'est-à-dire qu'il n'y en avait pas avant à Lyon 2, donc je pense que, et c'est un choix, on parlait tout à l'heure de choix éditoriaux, et nous c'est vraiment notre choix, c'est-à-dire donc de s'adresser uniquement, ou du moins actuellement aux étudiants. On veut pas partir en toute bombe, c'est-à-dire que voilà, on vient d'arriver, on s'installe tout doucement en travaillant, et l'idée c'est de tout de suite s'accrocher aux étudiants parce que c'est le public et les personnes qu'on côtoie tous les jours. Avant ça, c'est vrai que on parle pas non plus de choix ou alors de sujet campus uniquement. On parle de tout, on débat sur l'actualité nationale, internationale, éventuellement régionale. Mais c'est vrai que voilà, on a vocation à s'adresser aux étudiants, bien que les sujets qu'on peut retrouver sur notre site, donc www.rl2.info, sont aussi à destination de toute personne et de tout âge confondu.
Je pense aussi, en ce qui concerne ce sujet-là, c'est qu'on a l'utilisation, par exemple, de choses au niveau plus local. Par exemple, on a une chronique bon plan étudiant, c'est des bons plans qui sont situés sur Lyon. Parce qu'on est une radio de Lyon, donc on est là aussi.
On va parler de Strasbourg.
On sait qu'on est écouté par plutôt la communauté de Lyon. Enfin, on voit bien au niveau des gens qui nous écoutent, on regarde un petit peu, on suit les évolutions et on se rend compte que, bon, à part quelques Russes qui se sont perdus sur notre site, on a.
Ça nous arrive aussi, ça doit être les mêmes.
On a globalement un public français de la région Rhône-Alpes. Plutôt du Rhône et plutôt situé dans l'agglomération lyonnaise.
Et juste pour revenir à la question également de la spécificité de la web radio et du rapport aux jeunes, il me semble aussi qu'il y a quand même quelque chose de fondamental et qui distingue aussi la web radio par rapport à la radio tout court, c'est notamment ce qui concerne le différé, la question des podcasts qui permet simplement aux auditeurs de choisir en fait ce qu'ils écoutent. Donc on est vraiment dans cet individualisme aussi extrêmement contemporain où les personnes vont moins admettre le système d'information selon le mode de la transmission avec quelque chose qui leur est imposé sans qu'ils aient forcément énormément de choix comment ils vont préférer être dans l'interaction, l'échange, prendre même la parole et également choisir simplement ce qu'ils écoutent.
Je pense aussi qu'on n'est pas obligé de rester toujours sur le même type d'émission. Transistor à ses débuts a commencé avec deux émissions, une première qui était vraiment tournée vers la vie du campus qui s'appelait Anormal, parce qu'il faut toujours faire des jeux de mots, donc École Normale Supérieure ça donne Anormal, et une émission d'art qui s'appelait Transversa. Et c'est vrai qu'il a pu y avoir par le passé beaucoup d'émissions qui étaient aussi centrées sur les intérêts du campus tout simplement et des étudiants qui nous écoutaient en priorité, avec une ouverture qui se fait progressivement au fil du temps. Je pense que c'est une ouverture un peu, une évolution un peu normale des choses qui font que la grille de Transistor actuelle par exemple traite finalement très très peu d'événements de l'école
comparativement
et beaucoup de sujets très différents. Alors certes, comme on est tous rattachés à une matière d'origine, on est des étudiants, et en particulier à Transistor, mis à part notre chère exception Nicolas qui est en physique, on vient tous de sections littéraires. Donc forcément, je suis historienne, je fais une émission d'histoire avec Mathilde, par exemple. Mais ça n'empêche que...
Je suis germaniste et j'ai pas réussi à faire quoi que ce soit comme émission.
Moi, je suis historien, je n'ai jamais animé ou participé à aucune
émission
d'histoire.
Mais justement, c'est intéressant qu'on parle de cette émission d'histoire transhistorien, parce que j'ai justement...
Parce que c'est la tienne.
Exactement, voilà. Et d'ailleurs,
auto-promo.
À l'intérieur de cette émission, je voulais qu'on parle de ma rubrique, très exactement,
voilà,
pour vraiment
ça.
Revenir
parce
à moi.
Parce que c'est la meilleure, Mathilde,
il faut dire. Non, parce que justement, j'ai une rubrique qui pourrait avoir l'air très centré sur l'école, c'est une rubrique qui s'appelle Un café avec, nom de l'étudiant. J'accueille un étudiant et on discute de son parcours. C'est des étudiants en histoire et on discute de son parcours, de ses recherches, de son engagement associatif, de tout ce qu'il a vécu en tant qu'étudiant en histoire à l'école. Et ce que je trouve intéressant dans cette rubrique, dont j'ai eu l'idée.
Auto-promo.
Tout mon génie réside dans le fait.
Que c'est
à la fois quelque chose qui dans lequel tous les étudiants de l'école peuvent se reconnaître, qui parle vraiment à un public très spécifique.
Il y a un point à la fin de ta phrase, parce que je sais pas. C'est bien de
non,
dévoiler
mais,
ton
les avantages de l'écrit, c'est
non,
qu'on voit le point aussi.
Au-delà de ça, non, je veux dire que c'est juste que ça peut être écouté par quelqu'un d'extérieur de l'école, justement, faire découvrir ce que c'est qu'un étudiant. Ça intéresse des étudiants de l'ENS, mais ça fait aussi découvrir ce que c'est.
Chers ouais. auditeurs, si vous avez compris la phrase de Mathilde en réécoutant au podcast, envoyez-nous un mail.
Laissez un commentaire sur le bas de la page.
Voilà, on a enfin trouvé l'utilité de la web radio pour toi. Réécoutez tes phrases, Mathilde.
parle de podcast. Voilà, donc mais on parle de, c'est une vraie question.
On parle de radio différée. Ça rejoint aussi la question de l'individualisme des gens qui écoutent, dans le sens quand on fait des lives, parce qu'on en fait, on en a fait quelques-uns à Transistor.
On en fait presque un là.
Presque. Tout est dans le presque.
Oui, sauf qu'il n'est pas retransmis, mais bon,
t'enregistres dans les conditions du live, mine de rien.
On a énormément de mal à simplement avoir du monde qui nous écoute pendant qu'on fait le direct, alors que c'est quand même le but du direct. Et on est toujours.
Bon, après, c'est peut-être parce qu'on fait ça l'après-midi et que les gens en courent. Mais
il y en a marre des gens qui ont une vie et qui passent pas leur temps à nous écouter.
C'est quoi ces gens qui vont à la bibliothèque et qui travaillent sur leur mémoire là?
Oui, mais tout de même, je pense que c'est pas forcément le cas sans cesse.
Big up pour les cupcakes qui arrivent.
On rapporte du dessert. Enfin, voilà. Esprit critique, l'association qui t'apporte le dessert.
Enfin, je pense que c'est quand même embêtant et c'est une des raisons pour lesquelles on fait du différé aussi, c'est que on s'assure de l'écoute aussi.
Ouais. Alors c'est une question justement que j'aimerais bien poser à RL2 justement. Donc vous diffusez en différé comme nous. C'est un choix parce qu'il y a des radios aussi étudiantes qui font du direct. Alors est-ce que c'est un choix? Est-ce que c'est quelque chose de subi? Est-ce que c'est un choix parce que c'est aussi quelque part ça apporte une certaine facilité de pouvoir faire un différé. C'est moins contraignant en matière d'emploi du temps, en matière de mobilisation des gens qui doivent tourner une émission, etc.
Et le technique aussi.
En matière de technique aussi. Quoi choisir de faire du différé plutôt que du live?
Alors stratégiquement, il n'avait pas pris de dessert pour pouvoir répondre à la question.
On n'a pas voulu faire de direct tout de suite parce que, encore une fois, alors j'ai l'impression de me répéter, mais c'est vrai qu'on vient d'arriver. Donc on s'est dit, on a fait des pilotes, donc c'est ce qu'on appelle des émissions test. Et on s'est dit, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va donc différer nos émissions, mais dans les conditions du direct. Donc on évite, en fait, le plus possible de faire du montage. On a seulement coupé une émission, alors c'était vraiment le temps de quelques secondes, parce que voilà, il y avait une blague qui était un petit peu mal placée.
Qui n'avait pas de point final.
Exactement.
Oui, moi je me fais beaucoup monter.
Parce que la radio on ne ment pas, non.
Pas d'autocensure, c'est bon.
Exactement, on peut tout dire.
Mais donc justement sur le point du live, parce que nous après 5 ans de radio, on a commencé à avoir ce projet de
c'est le moment
de
où on fait ouais, on est les anciens, on a 5 ans de radio.
Pardon.
Ouais.
Pardon. De la diffusion en live, et là évidemment c'est vraiment le problème technique qui s'est posé. Comment on va le faire, comment on va le mettre en place. Et en effet, ce qui nous manquait, c'était cette spontanéité dans les émissions qu'on faisait en différé, après montage, après rajout des jingles, après découpage des blagues ratées, tout ça. Et
croyez-moi, il y en a beaucoup.
Il y en a eu. Finalement, on s'est rendu compte d'une chose, c'est que, en effet, c'était intéressant de faire des émissions dans les conditions du live, parce que la spontanéité, etc. Et puis on a essayé d'aller dans ce sens pour beaucoup d'émissions, en particulier celle de cette année, je pense au Gone de Thomas, mais d'autres émissions de notre web radio. Et on s'est dit que finalement ça n'avait pas d'intérêt de diffuser en permanence, parce que on n'a pas de quoi remplir une grille de 7 fois 24 heures autrement qu'en mettant notre playlist personnelle en dehors des heures où on va pouvoir enregistrer.
Et ce que je tenais aussi à ajouter dans le cadre de RL2, c'est le live, c'est un peu un objectif à atteindre. Se dire, on va se laisser du temps, on va se laisser le temps de progresser, de mûrir. Et ensuite, dès qu'on est prêt, on se lance en live. Alors, il y aura très peu de personnes peut-être qui nous écouteront, puisque forcément, on n'a pas forcément l'habitude la place d'enregistrer à une heure de grande écoute, de diffuser plutôt à une heure de grande écoute. Mais c'est vrai que dans le cadre de RL2, ce serait plutôt un objectif à atteindre. Et qu'on espère donc parvenir très vite.
Bref, le différé des préliminaires.
Voilà, donc ça c'est l'ordre de blague qui est coupé, hein. Voilà, c'est bien, on est très interactif.
Oui, toutes mes blagues, est-ce que ce ne sont pas.
Oui, pose-toi des questions, remets-toi en cause, Pauline. Voilà.
Non. Je suis trésorière.
Ou alors attention.
C'est drôle les savoir compter.
C'est vrai, on ne peut pas tout couper te concernant.
Vous disiez que vous faisiez quasiment pas de montage. Alors, est-ce qu'on fait beaucoup de montage à Transistor? Je pense que ici tout le monde a déjà fait du montage d'émissions, on est tous animateurs.
Moi je dirais qu'on en fait beaucoup, oui. J'ai pas de gros problème politique avec le
fait
de
faire de scrupules.
Du montage. C'est vrai qu'après on s'éloigne de ça parce que c'est plus à la limite même des podcasts, de la création radiophonique. C'est vraiment quelque chose, j'ai conscience qu'on s'en éloigne parfois de ce que ça pourrait être d'être une radio diffusée en live sur les ondes.
Après je pense que tout dépend du format, tout dépend du concept de l'émission. Pour ma part, toutes mes émissions qui ont eu des formats parfois différents, j'ai fait de l'actualité internationale, du spectacle, là, vivant sur Lyon. Là, cette année, j'anime entre autres une émission de divertissement sur Lyon. Moi, j'ai toujours fait dans les conditions du direct, avec donc un minimum de montage. Et là, je rejoins ce que disaient nos confrères d'RL2. Donc après, ça dépend aussi à la fois du format, parce qu'il y a certaines émissions, quand on, par exemple, on fait des émissions type interview, qui parfois demandent beaucoup d'enregistrements pour après un rendu.
J'allais justement te dire ça sur les interviews. D'un quart d'heure, je trouve que c'est parfois très intéressant de faire du montage parce qu'on a la contrainte. Moi, on a une émission, on n'a que 20 minutes pour interviewer une personne. Parfois, des gens qui ne sont pas du tout habitués à faire de la radio, nous, on reçoit des historiens, pas l'habitude, ils ont du mal parfois à tenir ce format et c'est aussi pour le confort un peu de l'écoute de l'auditeur qui se retrouve pas avec 45 minutes de
donc ça dépend du format mais ça dépend aussi de la volonté et de la ligne éditoriale qui est posée au départ.
Complètement et je rejoins ton avis, c'est-à-dire que nous ce qu'on veut c'est donc apporter une parole libre et à partir de ça on se dit on va pas monter une émission derrière pour essayer de rafistoler des propos ou de faire en sorte que ça tienne ensemble. Nous ce qu'on veut c'est on vient, on s'exprime et puis d'ailleurs sans vraiment, on regarde jamais le temps d'ailleurs. Bon alors, c'est une émission d'une heure vingt, mais la dernière, on a fait une heure et demie.
Et alors, dans les médias écrits, justement, vous traitez parfois justement de l'exercice de l'interview dans la Gazette ou...
Comment on fait ? Parce que là aussi, ça pose la question du passage d'un entretien avec la personne qui peut durer par exemple une demi-heure. Et après, ce doit être résumé en un certain nombre de signes. Donc il y a bien cette idée quand même de montage.
De toute façon, l'idée de montage, parce que il faut réussir à faire tenir une interview d'une heure et demie, deux heures, en une page ou en une demi-page ou en une double page. Donc, il faut garder le cœur de l'interview, ce qui est le plus important.
Alors, ça va bientôt être la fin de cette discussion, cette table ronde. On pourrait peut-être conclure, on a parlé du public, on pourrait peut-être conclure simplement sur l'échelle. À quelle échelle est-ce qu'on diffuse ? À quelle échelle est-ce qu'on aimerait diffuser quand on est un média étudiant ?
Je pense que cette question-là, elle se pose à travers chaque émission. Chaque émission doit poser cette question-là parce que tout simplement, ça après découle de ces réflexions-là la façon dont on va construire l'émission, la concevoir, penser le format au niveau du temps également parce qu'on ne s'adresse pas à des publics différents de la même manière. Donc je pense que ça, c'est une question que chaque créateur d'émission doit se poser en amont et que du coup, la réponse varie forcément. Est-ce qu'à RL2, vous avez cette question aussi de l'échelle ?
En ce qui concerne l'échelle, on essaye de toucher un public qui est relativement vaste sur l'université. On sait que l'université Lyon 2, il y a quand même plus de 20 000 étudiants, donc il y a beaucoup, beaucoup de monde à toucher. Mais il faut qu'on essaye de, comment dire, aller au-delà des filières. On a des filières un peu de base de RL2, donc qui sont Infocom et Sciences Politiques. Et on essaye d'aller au-delà. Et c'est la difficulté, la plupart du temps, d'atteindre des gens qui ne sont pas forcément au courant. Et le fait aussi de ne pas, pour le moment, avoir de lieu fixe, du coup, d'endroit où, on sait, telle émission est enregistrée, telle personne va à cette émission, par le biais du bouche à oreille, pour essayer d'être connu. C'est l'intérêt donc de notre événement qui aura lieu mardi 31, donc de midi à 15h devant le Besbrez. Oui, autopromo, tout à fait. Ouais. à Bron, donc sur le campus de Port des Alpes. C'est l'intérêt donc de nous faire connaître, comme ça, les gens qui auront été à cet événement, qui auront profité de tout ce qu'on a mis en place, notre travail, ils vont pouvoir nous suivre après à la radio, pouvoir nous écouter.
Et juste également, je pense que quelque chose d'important, c'est que quand on est dans un média, qu'on soit à l'écrit ou à la radio, web radio, c'est qu'on veut aussi laisser une trace. Donc je pense que l'échelle, elle est simplement synchronique,
c'est beau,
elle est diachronique.
C'est beau.
Enfin, une conclusion.
Elle est historique, l'échelle. Bref.
Merci, Pauline.
On se réécoutera quand on aura 50 ans. Et donc je pense qu'on parle aussi à nous-mêmes pour plus tard.
Le public senior, c'est nous dans 50 ans.
Et bien voilà, la boucle est bouclée et c'est ce qu'on appelle la dialectique. C'est formidable.